Je rêve d'une lune de miel en Polynésie.
Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon.
Vous lisez dans mes pensées. Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée.
Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti.
Oh, ne me réveillez surtout pas.
Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble.
Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout?
Oui. Avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre.
Vous faites les mariages aussi?
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Sarah Lecoeuvre et Damien Canivez.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro. Je suis avec Damien Canivez aujourd'hui. Bonjour Damien.
Salut Sarah.
Ça va en forme?
Ouais, bah regardez, je me suis apprêtée, hein, pour soi des stars.
Pour donc, une fois. Notre invité du jour est une figure incontournable du Figaro, directeur adjoint des rédactions. Il est aussi un éditorialiste que vous voyez régulièrement sur LCI et C'est dans l'air sur France 5. Il vient nous présenter une toute nouvelle émission qui sera diffusée sur Public Sénat. Yves Tréhère est avec nous aujourd'hui. Bonjour Yves.
Bonjour Sarah, bonjour Damien.
Bonjour à tous.
Ravi de vous accueillir.
Merci.
Vendredi 3 mai à 21h, vous donnez le coup d'envoi de Controverse, une émission sur Public Sénat qui est coproduite par Figaro TV Île-de-France, il faut le préciser. Pendant une heure, deux invités aux idées diamétralement opposées débattent autour d'un sujet de société. Ce sera la fin de vie pour ce lancement. Alors pour résumer, hein, ils ont chacun un grand oral et puis ils exposent leurs arguments. Autrement dit, on est loin de la cacophonie et du clash qu'on peut retrouver sur tous les plateaux aujourd'hui, sur les chaînes info ou autres. C'était ça l'objectif?
Oui, l'objectif c'était de faire quelque chose de réfléchi qui permette de réfléchir donc au public et que les débatteurs soient d'une part des experts, des vrais experts de la question,
ouais.
C'est-à-dire des gens qui connaissent parfaitement le sujet.
C'est pas forcément des gens connus ou...
Pas nécessairement, ça dépend du thème évidemment,
ouais.
Et qu'ils se respectent. Et c'est qu'il s'écoute. Et là, la particularité de cette émission, qui est une émission qui est inspirée d'un format qui vient d'outre-Manche d'ailleurs, ouais. Parce qu'en Angleterre, il y a le même type d'émission qui fait un carton d'ailleurs là-bas, c'est que chacun des débatteurs dispose de 10 minutes, rendez-vous
ouais.
compte.
Chrono à l'écran. Ouais.
Chrono à l'écran, c'est-à-dire que pour les téléspectateurs qui nous regardent, ça fait à peu près l'équivalent de presque 4 éditoriaux en tout,
ouais.
Mis bout à bout, c'est long, hein.
C'est long.
Et donc, comme ça, ils peuvent argumenter, ils peuvent développer leur argument, et on n'a pas le droit de leur couper la parole. Et l'adversaire, si je puis dire, le contradicteur, n'a pas le droit non plus d'intervenir. Donc, ils ont 10 minutes à eux, ce qui est un exercice très difficile. Très difficile.
Absolument, mais est-ce que vous avez changé d'avis à la fin de la toute première émission qui sera consacrée au dur sujet de la fin de vie?
Non, je dois l'avouer, j'ai pas changé d'avis.
Comme tout le monde d'ailleurs.
Comme oui. tout le monde d'ailleurs, oui. Ouais. Bah, alors, c'est
vous
un
demandez
sujet.
Aussi l'avis au public, hein, faut ouais. préciser, parce que dans le public, donc il y a 20 personnes en présentiel, 50 en visio,
ouais.
et chacun est muni d'un boîtier, et en début et en fin d'émission, ils ouais. donnent leur avis sur la question, ah. et on voit s'ils ont changé d'avis.
Alors c'est l'autre particularité, l'autre originalité en fait de l'émission,
ouais.
c'est que vous votez au début et vous votez à la fin et
voilà.
on regarde si eh bien, les plaideurs, les débatteurs ont réussi à faire, pour l'un ou l'autre, déplacer le public. Là, en l'occurrence, je crois que c'est un sujet sur lequel les gens sont très fermement positionnés, ont leurs avis,
ouais.
sont très déterminés. Et on l'a vu dans le public, d'ailleurs, parce que le public, à des moments, tout est très, très maîtrisé. Hein. C'est d'ailleurs mon rôle de gendarme, hein, un peu, sur le plateau. Mais
ouais.
quand il y a le moment des ouais. questions, on s'aperçoit que les gens, parfois, ont... Et puis, moi, j'étais obligé aussi de calmer certaines personnes qui ouais. voulaient absolument prendre la parole à un moment où ce n'était pas du tout le
et
cas.
Interpeller l'invité.
Ouais. Alors, sur la fin de vie, sincèrement, bah oui, les gens sont très... ont leur opinion qui est très fixée.
Ouais. Et vous avez déjà changé d'avis, vous, après un débat que vous avez...
Oui, j'ai été oui. sensible, ça, mais
ah
je
ne bon.
Sais pas sur... Mais ça peut arriver sur l'interprétation d'un événement, mmh. sur aussi la pensée d'un auteur, d'une femme ou d'un homme. Enfin, tout ça, vous pouvez évidemment évoluer.
Ouais.
Alors, sur une question aussi sensible que la fin de vie, qui est une question en plus qui, on va dire, qui est quand même un serpent de mer, ça fait
ouais.
des années et des
ouais,
années qu'on en parle. Les gens, et moi-même, j'ai mon opinion.
Mmh. Bon, on va en parler de votre opinion, on est curieux de la connaître.
Ah ouais,
juste après les news médias de Damien Canivez.
D'accord.
On commence ces infos médias avec cette altercation entre une équipe de CNews et les manifestants à Sciences Po.
Absolument, une équipe de la chaîne d'information en continu du groupe Canal s'est rendue devant les portes de la célèbre école située à Paris afin de couvrir la manifestation pro-palestinienne qui s'y déroulait, sauf qu'à un moment donné, où les journalistes ont d'ailleurs tenté d'interroger le député de la France Insoumise, Émeric Caron, un manifestant s'est interposé pour éviter que l'entretien ne se déroule dans de bonnes conditions. CNews, vous dégagez, vous n'êtes pas les bienvenus ici. BFM, pareil, partez. L'individu en question a appelé ensuite la foule à, je le cite, dégager l'équipe présente. Les reporters ont dû, à un moment donné, pour aussi assurer leur sécurité, quitter les lieux. Les reporters ont dû, effectivement, s'en aller. Et ce qui a aussi suscité l'indignation de Pascal Praud, qui, dans son édito ce matin sur CNews, a qualifié les dirigeants de Sciences Po de direction paillasson.
Vous êtes d'accord avec Pascal Praud ?
Oui, je suis complètement d'accord.
Ils ont trouvé un accord, il faut préciser, juste pour calmer le jeu.
Un accord honteux. En accord, ouais. Tout à fait.
L'accord de la honte,
tout à fait. Ouais. Exactement, parce que ça consiste à dire que les sanctions pour ceux qui ont semé le désordre, et quand on sème le désordre, on prend ses responsabilités, les sanctions sont annulées. Et deuxièmement, que les accords qui ont pu être passés entre l'Institut de sciences politiques et certains établissements israéliens doivent être rompus. C'est tout à fait honteux, c'est un chantage. Et par ailleurs, quand on est journaliste et qu'on fait un reportage, c'est quand même incroyable. Ça veut dire que ces gens-là sont sectaires, ne respectent même pas le droit à l'information. C'est-à-dire qu'ils les empêchent de faire leur métier.
Et c'est vrai que dans la mémoire collective, Sciences Po, c'est quand même une institution. Quand on dit qu'un élève est passé par Sciences Po, généralement, on se dit qu'il a un bagage culturel incroyable.
En plus, c'est un peu synonyme d'excellence.
Bien sûr. Ouais.
Et là, l'école est en train de partir à la dérive. Elle est ouverte à tous les vents de la contestation, de toutes les modes tout à fait odieuses qui viennent des États-Unis, qui relèvent du wokisme, l'intersectionnalité, le décolonialisme. Alors, on peut être contre la colonisation, évidemment, mais c'est pas pour ça qu'il faut réécrire l'histoire, et qu'il faut... Enfin, au contraire, il faut prendre la colonisation à bras-le-corps et essayer de voir pourquoi ça s'est passé comme ça. Enfin, c'est l'école de la bêtise, je dirais, et c'est assez affligeant de voir que cette école qui a formé quelques-uns de nos responsables, politiques, économiques, culturels même, soit tombée si bas.
Bon, on poursuit de manière un peu plus légère, avec la finale de Danse avec les Stars.
Oui, vous n'étiez pas sur le parquet, Yves Traer. En tout cas, je ne vous ai pas vu.
C'était en coulisses.
En coulisses, c'est ça. Vous avez fait quelques pas dedans, j'ai mes sources exclusives. Natacha Saint-Pierre et son danseur Anthony Collette ont remporté ce vendredi la 13e saison du célèbre concours de danse diffusé sur TF1. La chanteuse canadienne s'est imposée face à Inès Reg et Nico Capone. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était quand même temps que cette édition se termine. Vous le savez pourquoi, des tensions asphyxiées les coulisses de ce programme depuis plusieurs mois, un véritable feuilleton opposé Natacha Saint-Pierre à Inès Reg. Elle tenait en haleine finalement tous les téléspectateurs qui se demandaient vraiment ce qui s'y déroulait. Il y a eu des hauts et des très hauts, des bas et des très très bas, mais surtout des choses folles et inoubliables. Voilà ce qu'Anthony Collette, donc le danseur de Natacha Saint-Pierre, a déclaré sur Instagram quelques heures après la victoire, donc ce vendredi.
Yves, vous avez suivi la guéguerre entre Inès Reg, Natacha Saint-Pierre. Est-ce que c'est venu jusqu'à vous, vos bureaux
Figaro? Oui, dans le Figaro, on en a... Vous le savez très bien, on en a parlé sur le site internet, on s'en est fait l'écho. Ouais. Non, j'ai suivi ça de très loin, je dois dire que je n'ai pas été plus qu'intéressé par cette histoire. C'est des bagarres d'artistes. La dernière bagarre d'artistes à laquelle j'ai assisté comme ça, c'était l'été dernier, entre Michel Sardou et
Juliette Armanet.
C'était intéressant d'ailleurs. Et Juliette Armanet qui finalement est allée à Canossa, si je puis dire, puisque... Ouais. Elle est allée présenter ses excuses. Enfin, elle a présenté ses excuses en disant que, elle était un peu outrancière en disant que c'était ringard et que Sardou, fallait pas l'écouter, quoi.
D'ailleurs, Sardou, vous trouvez que on le qualifie souvent de chanteur de droite. C'est juste ça.
Oui, c'est un chanteur, parce qu'il a des idées qui sont effectivement très arrêtées, pouvaient être jugées conservatrices. Donc, c'est pas une insulte. Hein.
Bien sûr.
Non.
ça arrive au meilleur.
On va dire le contraire. On termine ces infos avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 16 aujourd'hui.
Oui, parce que c'est le nombre d'années durant lesquelles Cyril Ferraud aura animé Slam sur France 3. Il va lâcher les rênes de cette émission d'ici quelques semaines pour animer Tout le monde veut prendre sa place à la mi-journée sur France 2. Il succède donc à Jarrick qui, après seulement une saison, a décidé de raccrocher les gants pour se consacrer à d'autres projets.
Yves, quelle est l'offre laquelle vous n'avez pas pu refuser au cours de votre carrière ? C'est déjà arrivé Là, c'est le cas de Cyril Féraud qui
propose de faire des choses. Oui, ça m'est arrivé souvent. Alors, bon, on m'a proposé la direction de journaux, on m'a proposé dans le cadre, vous savez, c'est comme chez les footballeurs, il y a parfois des
mercato.
Mais on m'a souvent proposé et puis j'ai pas accepté, y compris à la télé d'ailleurs. Ouais. J'ai pas accepté.
C'est difficile de refuser.
Oui, c'est toujours difficile parce que d'abord, quand on vous propose quelque chose, c'est flatteur quand même, hein, c'est un honneur, faut pas l'oublier, c'est qu'on vient vous chercher, on estime que vous êtes de qualité ou que vous avez les qualités requises pour faire l'exercice qu'on vous demande, donc c'est quand même flatteur. Et puis deuxièmement, vous vous dites, bon, la vie mérite d'être vécue, et quand elle mérite d'être vécue, bah, c'est aussi le changement, c'est aussi savoir se remettre en question, c'est très important de se remettre en question. Et donc, à chaque fois, c'est quand même une tempête sous un crâne, comme dirait l'autre.
On vous a proposé quoi, la télévision, alors, dites-nous la vérité, on est dans le buzz TV.
La dernière fois, c'était de faire tous les soirs, de remplacer Maxime Switek sur BFM.
Sur BFM TV.
Entre 22h et minuit, du lundi au jeudi.
Tranche que Julie Hamet anime actuellement.
Tranche que Julie Hamet, que je connais bien, parce que j'ai travaillé avec elle à LCI, eh bien, elle anime actuellement, puisque j'ai donc refusé. Donc,
et ça a été un crève-cœur de refuser.
Oui, ça a été. Ça m'a beaucoup perturbé.
Mais pas de regret. Aujourd'hui.
C'est comme ça.
C'est un vrai changement de carrière aussi pour vous d'animer ce genre de tranche. Mais vous le refusez?
Non, parce que la vie est pas, doit pas être nécessairement linéaire. Donc, c'est une remise en question. C'est quand même du journalisme. Oui. C'est quand même une autre façon de faire. Mais je suis curieux de nature. Donc, voilà.
Yves Tréhard, vous présentez vendredi 3 mai à 21h sur LCP Controverse, qui est une nouvelle émission de débat coproduite par Figaro TV Île-de-France. Faut-il instaurer une aide active à mourir? Sera la première question posé lors de cette émission. Alors, c'est une question sensible, on en a parlé évidemment en introduction, alors que la loi sur la fin de vie a été discutée la semaine dernière lors des commissions à l'Assemblée nationale en vue d'une prochaine adoption. Avez-vous déjà un avis sur la question? Bon, ça, je sais que la réponse est oui, mais quel est-il, cet avis?
L'avis, il est assez simple. On arrive après une loi, une réforme qui a déjà été engagée en 2005, c'est ce qu'on a appelé la loi Claeys-Leonetti. Oui. Monsieur Claeys étant un député à l'époque de gauche socialiste, et monsieur Leonetti, maire d'Antibes aujourd'hui, député des Républicains, à l'époque c'était l'UMP, et c'est une loi qui introduisait de façon assez importante ce qu'on appelle les soins palliatifs. C'est-à-dire que vous accompagnez, c'est ça la grande différence, c'est quoi la différence entre cette loi et le projet qui est proposé là, c'est que la loi en question, c'était de vous accompagner à vivre, de vous aider à vivre jusqu'à la fin. Or que là, la loi qui est proposée par le président de la République, qui est quand même derrière, c'est lui qui est à l'origine, c'est de vous aider à mourir. C'est tout à fait différent. On vous aide pas à vivre, on vous aide à mourir.
C'est une euthanasie.
Voilà. C'est une euthanasie
cachée,
qui dit pas son nom. Alors très encadré, mais moi j'ai beaucoup de prévention par rapport à ça. D'abord, tous les exemples étrangers qui ont épousé l'euthanasie, d'une façon ou d'une autre, il y a toujours eu des dérives.
En Belgique, par exemple.
En Belgique, au Canada, ça c'est la première des choses. Au Canada, c'est impressionnant de voir les statistiques. La deuxième chose, c'est que moi, je l'ai vécu, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai vécu une fin douloureuse avec ma mère, on ne va pas se le cacher. Et je pense qu'il y a moyen de faire sans mettre les médecins ou le personnel hospitalier, on peut très bien, avec les soins palliatifs, s'en sortir. Donc la deuxième chose, c'est que moi, je vois dans des familles qui ne sont pas unies, des familles où il y a des jalousies, où il y a des rivalités, on peut aussi aboutir à des abus intolérables de faire partir le vieux ou la vieille, c'est comme ça que ça se passe.
Pour hériter,
odieux. La troisième chose, c'est que les soins palliatifs dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une technique certes qui coûte cher, mais c'est une technique qui n'est pas qui n'a pas été généralisée sur tout le territoire. Il y a plein de départements qui ne sont pas équipés d'unités de soins palliatifs. Et je trouve qu'à l'heure, aujourd'hui, où il y a un vieillissement de la population, il va y avoir un choc démographique du vieillissement qui va être colossal avec un nombre de centenaires, vous allez voir. Plus on va avancer, plus on va avoir besoin d'accompagner les gens dans leur, à leur fin de leur vie. Et là, il faudrait mettre le paquet. Je pense que c'est une des priorités. Hein. On parle souvent de la cinquième branche de la sécurité sociale. Eh bien, ça, c'est de la branche grand âge. Ça serait vraiment une priorité parce qu'on va s'apercevoir un jour qu'on n'a pas fait le nécessaire. Et on va se rendre compte que on est très mauvais et on est très 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 mauvais dans ce domaine.
Mais est-ce que cette euthanasie qui ne dit pas son nom, c'est finalement la solution de facilité pour un État qui n'a pas les moyens de financer ses unités de soins?
Alors il y a beaucoup d'adversaires de l'euthanasie qui tiennent ce discours-là, avec raison d'ailleurs. Bien sûr, mais le discours le plus répandu, c'est de dire que la souffrance est telle que chez certaines personnes, et ça on peut pas le nier. Oui. C'est vrai qu'il y a des Il y a plein de gens, vieux et pas vieux d'ailleurs, parce que des gens qui aussi ont subi des accidents horribles ou ont des handicaps absolument
terrible,
insurmontables, mais que ceux-là, on les accompagne plutôt qu'on les aide, mais qu'on ne... Je veux dire, ça me paraît... C'est une société qui accompagne dans la mort est une société qui fait peu de cas quand même de ce qu'est l'humanité.
Ouais. Et alors dans votre édito qui est paru dans le Figaro le 21 avril dernier, vous estimez que c'est surtout un pari électoraliste pour Emmanuel Macron qui va peut-être se redorer le blason grâce à cette loi fin de vie qui est populaire.
C'est un peu vrai d'abord parce que cette loi fin de vie est impopulaire, je crois qu'il y a 75% de la population qui y est favorable, qui d'ailleurs c'est un peu le chiffre, hein, vous parliez des téléspectateurs, il y avait trois quarts des gens qui étaient plutôt pour et un
c'est
petit
plutôt
quart,
bien représentatif
exactement,
des Français.
Exactement, et pour le président de la République, oui, vous savez, il y a une grande mode depuis pas mal de temps maintenant, c'est que le président de la République, son nom doit être associé à une grande réforme de société. Oui. Alors avec Giscard d'Estaing, il y a eu l'interruption volontaire de grossesse, avec Mitterrand, évidemment, il y a eu la peine de mort, c'était célèbre, mais c'était courageux parce qu'il allait contre l'opinion publique à ce moment-là.
C'est vrai.
Les gens étaient contre la suppression, l'abolition de la peine de mort. Et puis après, vous avez eu Chirac. Chirac, il y a eu quand même la suppression du service militaire. Il y a Hollande, il y a eu le mariage pour tous. Jospin, d'une certaine façon, il y avait eu le Pax avant. Chacun veut avoir son nom associé à ce qu'on appelle une réforme de progrès. Celle-ci, je ne sais pas si donner la mort, c'est le progrès.
Quels seront les prochains numéros de controverses que vous allez proposer sur LCP ?
On est en train de préparer le prochain, là, qui va être prochainement tourné. Ça sera très vraisemblablement sur le cannabis. Faut-il légaliser ou pas le cannabis ? Ouais. C'est aussi une grosse question, très grosse question. Là, c'est pareil, il y a beaucoup de pour et de contre. Alors, je crois que les avis sont moins tranchés que pour la fin de vie. Et là, on va voir. Alors, on aura évidemment deux débatteurs, deux plaideurs qui seront de haut niveau. Je ne peux pas vous donner les noms parce que tout ça est en train de se mettre au point.
Dont un fumeur de cannabis, et puis un autre.
Non, pas nécessairement, mais vous avez des gens qui défendent le cannabis, la légalisation du cannabis... pour des raisons qui peuvent être médicales, des raisons qui peuvent... Enfin, c'est toujours valable, hein, de toute manière, il faut débattre. Et puis d'autres qui sont absolument fondamentalement contre. Donc on verra, là. Ça s'annonce très intéressant, et à mon avis, c'est un programme qui va beaucoup plaire.
Mais c'est vrai qu'il faut que vous castiez de très très bons orateurs, parce que vous parliez de cette séquence qui dure 10 minutes par personne. Ça peut être très long si vous avez affaire à quelqu'un qui ne s'est pas aligné de
mots. Alors, je parle d'expérience avec les deux débatteurs de la fin de vie. Donc d'un côté, nous avions Jonathan David, qui est excellent, qui est le président de l'association du droit à mourir dans la dignité, qui était lui favorable donc à cette réforme, qui est vraiment... il connaît son sujet par cœur. Et de l'autre, quelqu'un qui est un petit peu moins connu, qui s'appelle Sarah Piazza, qui est une psychologue qui exerce dans les unités de soins palliatifs et qui a été... Je dois le dire, hein, parce qu'elle elle a moins l'habitude des médias, elle était transie de peur, je peux le dire, parce que elle a tellement bien réussi quand elle était à l'écran, elle était magistrale pour moi. Ouais. Et elle est brillante, hein, et son argumentation était phénoménale.
Et elle a été un peu bousculée par une question du public.
Elle
a
été un peu bousculée par une question du public, mais sa plaidoirie pendant 10 minutes était vraiment remarquable.
Était magistrale.
comme le, ce, celui de Jonathan.
Vous celle seriez Jonathan. Bon dans cet exercice ?
Je sais pas, oui, j'aimerais bien, ouais.
Bon, quand on vous y voit un peu dans cet exercice, quand vous êtes sur LCI, ah, le non, soir, ouais. Deux fois par semaine, il me semble.
Hein. Deux fois par semaine.
Et puis danser dans l'air aussi régulièrement, c'est facile d'avoir un avis sur tout, tout le temps.
Non, mais parce que... Vous savez comment on appelle ça ? Un toutologue ?
Les toutologues, oui, oui, c'est la grande mode, ce nom, ce qualificatif.
Oui, alors, en fait, ce qui se passe, c'est un peu... Bon, c'est l'expérience qui parle aussi, hein. Maintenant, ouais. Je suis plus un perdreau de l'année. Je peux dire que j'ai pas mal roulé ma bosse. J'ai pas mal roulé ma bosse sur le front de l'information. Donc, évidemment, j'étais appelé. Moi, je suis ce qu'un vieux journaliste du Figaro appelait, je citerai pas son nom par respect, mais un journaliste de voix publique, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait de tout, hein.
Ouais. J'ai vraiment fait de tous les sujets.
Ouais. J'ai vraiment fait de tout. Et alors, j'ai des domaines de prédilection quand même, hein. J'aime beaucoup les affaires qui ont trait justement à la justice, à la sécurité. J'aime beaucoup la politique intérieure. J'aime beaucoup la politique étrangère, ouais. Et notamment tout ce qui a trait, vous le savez, puisque j'ai fait beaucoup d'émissions là-dessus, sur l'Afrique. Donc j'ai quand même des petits jardins secrets. Mais,
et puis le sport aussi, vous aimez vous adorez
j'aime
le
bien
sport.
J'aime bien le sport, oui, ouais, tout à fait.
Absolument.
Ouais, tout à
Est-ce fait. Que c'est compliqué de donner son avis aujourd'hui ? Plus compliqué peut-être qu'il y a une dizaine d'années, avec les réseaux sociaux, avec vos propos qui peuvent être montés, parfois un petit peu de façon fallacieuse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites très attention ?
Il y a parfois des propos qui me sont attribués de façon fallacieuse. Hein. Il y a parfois des cas où j'ai été très très maladroit dans mon expression, et il faut toujours se remettre en question. Faut pas hésiter à le faire. Non, je dirais que aujourd'hui, c'est plus finalement, c'est plus courant de donner son avis. Oui. C'est très rare dans le temps parce que vous aviez beaucoup moins de médias. Quand aujourd'hui, j'en vois qui disent il y a pas de liberté d'expression et tout, on est censuré et tout. Non, mais attendez, vous avez vu l'offre médiatique qu'il y a, c'est colossal. Et quand on veut s'exprimer, je pense qu'on peut s'exprimer, notamment quand on est journaliste, alors que c'était beaucoup moins le cas par le passé. Par le passé, les espaces de débat étaient beaucoup plus restreints qu'aujourd'hui, hein.
Alors, vendredi, nous recevions sur ce plateau Elliot Deval, qui est le joker de Pascal Praud sur CNews, que vous devez connaître. Il avait une question, Yves, à vous poser. Je vous propose de regarder et puis d'y répondre ensuite.
Oui.
Cher Yves, visiblement, tu es donc une nouvelle émission sur LCP. C'est une émission de débat avec deux chroniqueurs qui sont diamétralement opposés sur des sujets qui sont parfois des sujets tabous. C'est étrange. Pourquoi l'avoir pas proposé sur CNews, cette émission ?
C'est presque une proposition, hein, de rejoindre CNews.
On rejoint le début d'émission, je suis très flatté. Non, mais vraiment, en plus, j'aime beaucoup ce garçon. Je vais vous dire une chose, pour moi, je le dis comme ça, c'est pas parce qu'il me pose la question, mais c'est probablement un des plus brillants du PAF. Je trouve qu'il est d'une aisance, d'une intelligence, d'une pertinence. Enfin, il est assez incroyable. Ouais. Ça m'étonne pas qu'il en soit là. Je l'avais repéré alors qu'il était très 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 jeune, d'ailleurs.
Ah ouais.
Je vais lui répondre parce que c'est comme ça, quoi. C'est LCP qui m'a proposé.
Le premier, fallait dégainer le premier, quoi.
C'est LCP qui me l'a proposé. C'est vrai qu'en plus, je pense que c'est un format d'émission qui se prête sans doute beaucoup plus à ce qu'est la chaîne parlementaire, LCP, qu'à CNews, comme d'ailleurs BFM ou LCI, où ce sont des formats qui sont un peu différents. Je ne crois pas qu'on accorde une heure comme ça à un débat, ou alors il faut vraiment que ça soit très exceptionnel. Oui. Donc je ne sais pas si ça rentrerait dans leur grille de programme. Voilà.
Mais cela dit, vous pourriez rejoindre CNews un jour. Il y a beaucoup de plumes du Figaro qui s'y trouvent, Eugénie Bastier, Anne Fulda également.
Pour le moment, je suis à LCI. Oui. Vous êtes travaillé sur une chaîne, vous êtes exclusif, et moi je ne fais pas de faux pas, je suis sincère et fidèle.
Et loyal.
Attendons l'avenir.
La vie est longue, Et vous comprenez les critiques qui émanent contre CNews, la chaîne, ce déferlement ?
Non, je ne la comprends pas.
On remet en question finalement la ligne édito.
Écoutez, je vais vous dire une chose. Je suis outré par ce débat. Pourquoi ? Parce que CNews, vous avez la liberté ou pas de la regarder. C'est pas un service public. Elle ne fonctionne pas avec de l'argent, l'argent du contribuable. Donc, je trouve que c'est tout à fait odieux de lui faire un procès qui n'a pas lieu d'être, alors que c'est une chaîne de qualité.
Vous avez suivi les commissions d'enquête
qui
ont eu lieu ?
Oui, de loin, parce que
c'est très long.
Ça, c'est très long, mais ils se sont bien défendus d'ailleurs. C'était absurde. On était en absurdie dans cette histoire-là. Ouais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand vous êtes journaliste, vous avez le droit, vous avez la liberté d'y travailler ou pas. Si vous n'avez pas envie d'y travailler, bah vous n'y travaillez pas. Quand vous êtes invité de CNews, c'est pareil, vous avez la liberté de dire oui ou non. Et si vous dites non, c'est pas pour ça que vous devez cracher sur CNews. Donc, c'est grotesque. Cette histoire est grotesque. C'est un procès en sorcellerie. C'est un procès stalinien. C'est un procès qu'on ne ferait pas au service public, alors qu'on pourrait, vis-à-vis du service public, très souvent, aussi faire la même chose. Et puis, on pourrait, à ce moment-là, on pourrait passer sur le grill, toutes les chaînes, tout ce qui se fait. Mais écoutez, on a une offre qui est à nul autre pareil. On peut faire ce qu'on veut. Si vous n'avez pas envie d'écouter CNews, bah, n'écoutez pas CNews.
Vous pensez que le service public est trop à gauche? C'est ce que disait le porte-parole du Rassemblement National à votre place, oui. Julien Odoul, lorsqu'il est venu
non,
sur
mais
ce plateau.
On peut considérer qu'il y a certaines émissions, mais les journalistes ont leur sensibilité. On peut considérer qu'effectivement, il y a peut-être des émissions. Je ne suis pas tout le temps pendu devant la télé ou avec une oreillette qui écoute la radio, mais ça peut aussi. Le service public n'est pas exempt de critiques.
Oui, et puis c'est peut-être plus problématique étant donné que c'est du service public.
Donc, voilà.
On peut se poser la question.
Exactement.
Et il y a une réforme audiovisuelle aussi qui se prépare en coulisses. Oui. Rachida Dati, la ministre de la Culture, défend une BBC à la française où la radio et la télé seraient fusionnées. C'est une bonne idée selon vous?
Je me méfie parce que ça peut être une fausse bonne idée. Alors effectivement, vu sur le papier, vous pouvez vous dire si vous réunissez tout le monde, vous faites des économies d'échelle et puis il y a beaucoup de doublons inutiles. Ok. Mais ça, c'est un peu comme, les collectivités territoriales. Vous savez, on a voulu simplifier le millefeuille. En moralité, on n'a rien simplifié du tout. Et puis, ça coûte beaucoup plus cher.
Et c'est beaucoup plus complexe.
Et c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, ils ont chacun leur spécificité quand même. Hein, vous prenez France Télévisions, la radio, puis vous avez TV5 Monde, vous avez France 24, tout, chacun a sa spécialité. Est-ce qu'en réunissant ça, tout le monde, est-ce qu'on va vers plus de qualité et vers plus d'économie? J'attends de voir.
Vous reviendrez pour qu'on discute. Merci, Fréa.
Merci.
Je rappelle que l'on vous retrouve ce vendredi 3 mai à 21h sur LCP pour Controverse, une émission coproduite par Figaro TV Île-de-France, et puis deux soirs par semaine sur LCI, dans les pages du Figaro, évidemment, et puis Danser dans l'air. Voilà.
Je rêve d'une lune de miel en Polynésie.
Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon.
Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée.
Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti.
Oh, ne me réveillez surtout pas.
Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble.
J'ai trop hâte! On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout?
Oui. Avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre.
Vous faites les mariages aussi?
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.